prions pour tous nos défunts qui sont dans l'attente de la contemplation de Dieu et qui sont des saints en état de purification. Nous avons un devoir de prier pour eux, car eux-mêmes prient pour nous. Ils ont besoin de notre charité, de notre prière, pour les aider justement à cette communion de purification. Bien, entrons dans cette Eucharistie, car à chaque Eucharistie, nous prions pour nos défunts. Mais l'Église, dans sa sagesse, a prévu un jour particulier dans la succession de la fête de la Toussaint pour prier pour toutes ces âmes, particulièrement aussi pour les plus délaissés. Que soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à la foule, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. La volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est un immense signe d'espérance pour nous, pour ceux qui nous ont précédés et qui sont encore en état de purification. Mais aujourd'hui, la charge affective liée à la mort d'un proche, bien sûr, est très forte. Et l'après-mort est souvent considérée comme la paix des cimetières. De ce fait, la réalité de la résurrection de la chair est occultée comme un écran de fumée. Il y a, à mon avis, deux façons de considérer la mort, soit comme une porte fermée, ou bien comme une porte ouverte. Ainsi, la mort sans espérance est désespérante. Mais habiter de l'espérance chrétienne de la résurrection, elle introduit dans le mystère, elle fait partie du mystère chrétien. Il nous faut donc apprendre la sagesse du cœur pour devenir sage, pour prendre conscience, pour nous préparer à nous approprier notre mort en rompant la conjuration ou la conspiration du silence qui s'établit à son propos. Pour un philosophe grec qui s'appelait Épicure, la mort était un faux problème. Il disait, quand je suis là, la mort n'y est pas, et quand la mort est là, je n'y suis pas. Il y a des psychologues qui voient dans le refus de la mort le vrai ressort de tout l'agir humain. Dans toute sagesse humaine, la mort ne console pas, ne dissipe pas la peur, elle nous apitoie sur notre propre sort et provoque un sentiment de solidarité dans la douleur. Saint Augustin notait, « Quand un homme naît, on fait toutes sortes de suppositions. Mais il n'est personne dont on dise peut-être qu'il mourra, peut-être qu'il ne mourra pas. Et pourtant, c'est la chose qui soit absolument sûre dans la vie. Or aujourd'hui, l'Église dénonce une culture de mort, une volonté politique de mort organisée sur les enfants à naître et sur les personnes en fin de vie. Toutes les cultures et les époques se sont situées devant la mort comme devant une énigme que l'on ne parvient pas à résoudre. Avant que nous en venions à bout, c'est elle qui vient à bout de nous. Un philosophe, Michel Serres, parle de la civilisation de la nuit, celles qui ont existé avant la venue du Christ, et de la civilisation du jour après la résurrection du Christ. Car le Christ est la lumière du monde, il nous révèle la vie en Dieu. C'est lorsque Jésus meurt pour nous sur la croix que les choses changent radicalement et que la mort devient une réalité nouvelle. Jésus avait parlé de sa mort comme d'un exode pascal. Et saint Jean oriente notre regard dans son évangile de manière à ce qu'il apparaisse clairement que la mort du Christ sur la croix est la nouvelle Pâque. La Pâque est le transfert du Christ de ce monde vers le Père. C'est ce chemin pascal qu'il nous faut emprunter. Pâque et mort du Christ sont désormais deux réalités si intimement unies qu'elles ont conduit les premiers chrétiens à considérer que le terme « Pâque » dérivait de la Passion, Passion, et qu'on nommait ainsi cette fête à cause de la mort du Christ. Mais ce n'est pas seulement le nom de la mort qui change, mais aussi sa nature. Dieu a pris une chair mortelle, afin de pouvoir par elle lutter contre la mort et la vaincre. La mort s'est attaquée au Christ, mais elle n'a pas pu l'absorber, parce qu'en lui il y avait Dieu, et c'est ainsi qu'elle s'est trouvée tuée. Saint Éphrem écrit que la mort a tué la vie naturelle, mais elle a été tuée par la vie surnaturelle. Du fait que la mort ne pouvait engloutir le Verbe sans son corps, ni l'enfer le recevoir sans sa chair, dit-il, il naquit de la Vierge Marie. La mort humaine n'est plus la même qu'auparavant. Un événement décisif est intervenu, et par la foi, on saisit l'incroyable nouveauté que seule la nouveauté d'un Dieu sur terre pouvait causer. Je crois à la communion des saints, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Voilà notre confession de foi que nous redisons chaque dimanche. Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme une venue vers lui et une entrée dans la vie éternelle. La mort place la vie de l'homme devant un choix. L'accueil ou le rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ Jésus. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours en enfer. Précise le catéchisme de l'Église. Aujourd'hui, nous prions pour tous les fidèles défunts qui sont sauvés, qui sont morts dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés. Bien qu'assurés de leur salut éternel, ils souffrent une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église honore la mémoire des défunts et invite les chrétiens à cet acte de charité, de reconnaissance, en offrant en particulier le sacrifice eucharistique du Christ, ainsi que des sacrifices personnels et communautaires et des prières, afin que purifiés ils puissent parvenir dans la gloire de Dieu. Cette deuxième messe que nous célébrons est pour toutes les âmes du purgatoire. Un jour viendra où nous aussi, nous aurons besoin de la charité de nos frères pour achever notre purification. Ne négligeons pas les indulgences que dans sa miséricorde l'Église nous propose particulièrement en ce jour. Mais au fond, de quoi faut-il nous purifier en cette vie? Comme l'écrit un auteur spirituel, tout ce qui est encore à soi est du domaine du purgatoire. Au fond, au moment de mourir, ce qui est le plus à moi, c'est moi. Plus que les biens auxquels nous nous accrochons, c'est nous-mêmes qui est à purifier pour ressembler au Christ, à entrer et entrer dans une communauté de vie avec lui. Quand nous sommes en présence de l'amour, nous ne pouvons que désirer aimer. La souffrance, c'est de constater que nous ne sommes pas capables. Il y a donc en nous, ici-bas, un commencement de purgatoire. Lorsque nous éprouvons la plus vraie de toutes les souffrances, qui est de constater qu'au moment même où nous disons à l'être le plus cher que nous l'aimons, ce n'est pas absolument vrai, car nous nous aimons nous-mêmes davantage, nous nous préférons à lui. Il est beau de pleurer parce que nous éprouvons qu'en disant « je t'aime », nous ne sommes jamais absolument sincères. Au fond, l'autre est un moyen privilégié pour l'amour que je me porte à moi-même. Nous sommes incapables d'aimer vraiment. La vérification est simple dans la parole lorsqu'elle se fait discours. Le purgatoire est, à la lettre, l'heure de vérité, l'instant de vérité. Le purgatoire est cette souffrance-là, mais intensifiée, portée à un degré extraordinaire d'intensité par la lumière divine, qui nous découvre à la fois l'infini de Dieu, l'infini de l'amour de Dieu, la pureté de son amour, qui n'est qu'amour, et la part d'égoïsme dans le bilan de notre vie. Le purgatoire est donc un amour purificateur. Ce n'est pas une souffrance qui serait comme imposée et contre laquelle on se débattrait en vain. C'est une souffrance volontairement acceptée et endurée lorsque, mis en présence de la fulgurante sainteté de Dieu, nous sommes horrifiés de ce que nous avons fait nous-mêmes, de ce que nous sommes devenus. Cette horreur de soi devant l'amour est le repentir. Ce repentir est une intensité d'amour qui voudrait compenser la médiocrité du passé et fondre nos duretés intérieures. Le purgatoire est donc une souffrance volontaire à laquelle nous ne voudrions pour rien au monde échapper et qui est en même temps une joie. La joie de découvrir que nous sommes intensément aimés d'un amour brûlant, que nous sommes sauvés. Sainte Catherine de Gênes écrit que rien, sinon la joie du ciel, n'est comparable à la joie du purgatoire, car plus on est brûlé par le feu de l'amour purificateur, plus on sent, on se voit redevenir pur et capable d'entrer en Dieu. C'est un peu comme écrivait quelqu'un une barre de fer couverte de rouille et purifiée par le papier de verre qui éprouverait, si elle était consciente, la douleur du frottement et se réjouirait de voir sa propre rouilleté et dissoute. Au fond, c'est le même feu qui damne en enfer et qui purifie au purgatoire, qui béatifie au ciel. Dieu ne change pas. Le feu de l'amour est toujours le même. C'est nous qui sommes différents devant l'amour immuable d'infini. Si nous sommes totalement contraires à l'amour, le feu de l'amour nous torture. Si nous sommes capables de purification, ce feu nous purifie. Et si nous sommes unis à Dieu dans l'amour du prochain, ce feu nous béatifie. Bien que Marie, la mère du bel amour, nous donne d'aimer et de servir le Christ et nos frères, par amour, dans le don de notre vie. Soyons dans la joie de Dieu et de Marie pour toutes les âmes qui entrent au ciel aujourd'hui et implorons la miséricorde de l'amour pour les âmes du purgatoire. Amen.